Allons-y avec la chronique livre et Anne-Marie Aubin. Bonjour Anne-Marie.
Bonjour Hélène.
Vous n'avez pas chômé ces derniers jours, vous avez lu deux livres.
Oui, deux livres, toutefois qui sont très courts, mais aussi parce que je n'y serai pas la semaine prochaine. Alors je me suis dit, bon, j'ai
des ouvrages
pour deux semaines.
Oui, nous faisons relâche la semaine prochaine. Alors deux livres, ouais. Un de 133 pages et l'autre de 130 pages. Le premier, Femmes silencieuses aux éditions Héliotrope.
Oui, c'est le titre, le livre lauréat du prix Radio-Canada Caroline Dawson 2025, qui était aussi finaliste au prix du gouverneur général cette année, d'une jeune autrice qui a à peu près 25 ans. Elle est née en 2000 et puis elle est née en Roumanie, mais elle est arrivée au Québec à l'âge de 3 ans. Et elle étudie, je crois, présentement en maîtrise en création littéraire à l'université. Puis bon, ben, ce texte très bref raconte ce qu'elle sait de la Roumanie parce qu'elle a dû y retourner, elle a dû rencontrer ses grands-parents où on lui aura raconté des choses, ce qu'on y mange, comment est-ce que les femmes y vivaient, les hommes. Et là, elle met en scène une jeune adolescente qui raconte cette histoire-là qui est un peu la sienne parce qu'elle avoue qu'elle a vécu quelque chose de très semblable à ce qui se passe dans le livre et qu'elle s'est inspirée de son expérience pour créer ce texte-là qui est auto-fictif. On peut dire ça, c'est auto-fictif et c'est fait par petits fragments qui sont plus ou moins chronologiques et qui racontent des choses du passé. Par exemple, on va avoir la description d'une table avec toute la nourriture, ce qu'on achète au marché, puis à côté des textos d'un garçon qu'elle rencontre. Puis au début, bon, ben, c'est comme le début d'une relation amoureuse, mais qui devient tout à coup moins intéressante. Et nous, en tant que lecteurs, on se dit, oh non, elle ne va pas se laisser prendre, c'est pas vrai, là. Et puis, bon, ben, lui, il la manipule, il insiste, il est, je dirais, vraiment pas correct.
Un escroc.
Ouais, c'est ça. Puis aussi, il lui révèle des choses qu'il sait qui sont très discutables. Et puis, elle, devant ça, elle ne sait pas trop quoi faire ni quoi dire. Alors, je vais vous donner un exemple. Il lui envoie un texto. L'affaire de la police, c'est qu'une fille plus jeune m'avait envoyé des photos, puis là, elle l'a dit à ses amis et au directeur. Elle avait 12 ans, donc moins pire que 11. C'est moi qui lui ai demandé. À un moment donné, elle voulait venir chez moi, mais je lui ai dit non parce que je ne l'aimais pas. Je ne la trouvais pas si belle. Quoique, faire circuler du contenu pour nous de filles de moins de 18 ans, c'est illégal, mais le policier m'a dit que c'était correct. Il m'a dit qu'il allait juste me donner un avertissement. J'ai été chanceuse. Alors, on comprend très bien que ce garçon-là veut la manipuler, bien puis oui. Prendre des photos d'elle, puis tout ça. Et là-dedans, ben, elle ne sait pas se défendre, elle n'ose pas en parler. Et à un moment donné, il va lui écrire « Je m'excuse encore, je m'excuse tellement, je suis désolée, c'est encore arrivé, ça n'arrivera plus, je savais que tu n'étais pas prête, mais je l'ai fait quand même. » Alors, suite à cette agression qui est racontée d'une manière, je dirais, fragmentaire, on voit bien venir la chose, ben, en même temps, il y a ce qui se passe dans sa famille, le silence qui existe sur les femmes qui ont vécu avant elle et la violence qu'elles ont subie. Sa grand-mère, à un moment donné, dit à son fils, qui est le papa de la jeune fille, « Toi, est-ce que tu bats ta femme? Je n'oublierai jamais combien ton père m'a battue. Maintenant, il est trop fatigué. Mais c'est la vie. » Alors, cette espèce de soumission décrit un petit peu, finalement, l'attitude de cette famille, puis de cette culture, peut-être aussi. Alors, elle nous raconte ce qui se passe au jour le jour à travers les textos. Puis là, ben, un peu plus vieille, la jeune fille va faire une poursuite. Et elle a tous les textos enregistrés dans l'ordinateur qu'elle va imprimer. Ça fait 500 pages. Là. Et elle va essayer de déposer ça pour finalement faire une plainte. Et puis bon, ben, on sent très bien derrière ça la machine de la justice qui n'est pas de son bord. Elle dit qu'elle a voulu faire des poursuites et puis bon, ben, on lui a dit « oublie ça, là, ça sert à rien ». Alors on comprend, c'est révoltant parce qu'on s'aperçoit que finalement, une jeune fille qui subit ça n'a pas d'aide, que le système de justice dise que tes preuves sont pas assez bonnes, ça sert à rien de faire un dossier avec ça. Bref, moi habituellement, quand je lis un livre, là, je prends des notes en même temps. Mais là, quand j'ai lu celui-là, j'étais incapable de le quitter. Et quand j'ai tourné la dernière page, j'étais encore sous le choc. C'est une écriture qui fesse. Il n'y a pas de censure. Elle dit les choses telles quelles, mais c'est bien dit, là. C'est pas du tout vulgaire ou quoi que ce soit. Là, c'est vraiment les choses telles qu'elles, une personne les sent froidement sans pouvoir réagir. Et la page couverture, c'est comme un pion au jeu d'échecs qui est brisé. Et ça aussi, le jeu d'échecs et la symbolique, la métaphore de ça est importante dans le livre. C'est un livre qui est bouleversant, que tous les jeunes du secondaire devraient lire pour être mis en garde, parce qu'on a beau lui dire et tout ça, je pense qu'avec les réseaux sociaux, ils se font prendre. Et puis de voir aussi combien la justice n'aide pas toujours. Et elle a raconté dans une entrevue qu'elle-même, quand elle a vécu cette chose-là, elle a voulu se défendre. Puis on lui a dit, ça ne sert à rien, il n'y a rien à faire dans une situation.
On l'a découragée.
Oui, c'est ça. Alors, donc elle a senti qu'elle devait écrire cette histoire-là, toute jeune, là, quand même. Mais c'est une autrice qui promet parce qu'elle sait dire les choses que personne n'ose dire, les dire bien. Et puis bon, ben on comprend que ce garçon-là, il a un problème, là. Et puis bon, qu'elle n'a pas su, qu'elle n'a pas eu l'aide et que personne ne la croyait quand après elle a voulu se défendre. Et c'est une femme, la juge, en plus, qui est là à la fin.
Ouais. D'autant plus choc, hein?
Ah, c'est un livre choc à lire absolument.
Femme silencieuse par Christina Vansiou aux éditions Héliotrope à lire absolument. Et Anne-Marie, vous avez lu aussi maintenant aux éditions Cheval Doux, Je mets mes rêves sur la table.
Oui, de Martina Šumová qui, elle, est née à Prague. Donc, cette fois-ci, là, j'ai deux autrices qui sont de pays étrangers, mais qui est arrivée au Québec à l'âge de 5 ans, toute jeune donc. Et elle a publié ce livre de 130 pages, qui n'est pas très long, qui a été finaliste au gouverneur général et finaliste au prix Nouvel Apport Métropolis Bleu en 2025. C'est un livre qui n'est pas un roman, mais une espèce d'autofiction où, justement, un certain nombre de fragments sont là, ensemble, réunis dans différents chapitres, qui décrivent un petit peu la situation d'une jeune mère. Et c'est, bon, c'est sans doute autobiographique du début jusqu'à la fin.
Une structure qui ressemble à celle de Femmes silencieuses?
Non, pas du tout.
Pas du tout? Okay.
On n'est pas dans la révélation personnelle d'une situation d'une jeune fille, mais d'une situation d'une mère. Dans la société, à Montréal, aujourd'hui, comment est-ce qu'elle arrive à survivre? Alors donc, elle a eu son enfant, elle avait 21 ans. Et puis son fils grandit, et puis on sent qu'il s'en va vers l'âge adulte, et puis qu'elle a le besoin de retourner dans son passé pour finalement faire le pont entre le début de son existence, la naissance de son fils, sa vie de mère, etc. Quand il est grand, il est plus autonome, puis elle sent qu'il a l'âge presque elle avait quand elle a mis un enfant au monde, mais là, c'est toute une vie différente. Puis elle dit, moi, je suis anachronique parce que dans mon pays, les femmes qui ont 21 ans ont 2-3 enfants, puis ici au Québec, les femmes de 21 ans sont pas prêtes du tout à être mères et pensent à faire une carrière, à faire autre chose. Donc, elle explique comment est-ce qu'elle a vécu ça à partir de sa vie de couple. Elle était amoureuse d'un garçon, puis ensemble, ils ont eu un enfant. Et puis, après ça, elle s'est séparée de cet homme-là. Puis, l'enfant, il a pris beaucoup de place dans sa vie, mais en même temps aussi, la solitude, la précarité, parce qu'à un moment donné, elle a été évincée de son logement, puis là, elle est en quête d'un appartement en ville. Elle se questionne donc sur le sens de sa vie, son travail, entre sa passion et puis, comment je peux payer mon loyer? Alors, elle dit qu'elle a un travail qu'elle n'aime pas, mais qui permet de gagner sa vie avec une équipe sympathique, mais que c'est pas ça qu'elle voudrait faire. Et combien de gens sont dans cette situation-là? Donc, la précarité, la santé mentale, parce qu'elle fait une dépression, puis à un moment donné, elle raconte ses angoisses, ses doutes. Puis dans ces périodes de dépression, de grande fatigue, on reconnaît beaucoup de femmes et de mères qu'on connaît, puis elle n'ose pas en parler à sa mère. Parce que quand sa mère lui dit « Comment vas-tu? Ah, tout va, tout va. » C'est qu'elle va à la clinique, puis là, elle déballe son sac devant un résident qui est là, un médecin qu'elle ne connaît pas. Puis elle dit que finalement, c'est peut-être plus facile de se confier à quelqu'un qu'on ne connaît pas qu'autrement, où on est parfois jugé, justement. Puis son fils, je pense que c'est celui qui l'a tenu en vie à travers tout ça, parce qu'elle l'aime beaucoup, puis elle est toujours inquiète. Elle se demande toujours, est-ce que je serai une bonne mère? Est-ce que je vais être capable de bien l'éduquer? Et il y a un passage où il y a plein de petits souvenirs, de petites anecdotes à propos du fils. Et puis, je cite un passage où elle dit que tout petit, il m'a demandé, quand je serai plus grand que toi, penses-tu que les gens te prendront pour ma fille? Là, il y avait peut-être 3-4 ans, puis effectivement, les enfants, ils mesurent les gens à leur taille. Et je me souviens que moi, ma petite fille ne comprenait pas pourquoi j'étais plus petite que ma fille qui me dépasse en taille, mais ça n'a rien à voir. Mais quand ils ont 2-3 ans, pour eux, tout se mesure. Donc, elle a une très belle écriture, très poétique, remplie de citations d'auteurs qu'elle a lues sur toutes sortes de sujets. Puis à travers les pages, il y a le dessin d'un enfant, un gribouillage, une photographie, une page avec des notes qui montre son quotidien. Comment est-ce que finalement tout ça meuble sa vie? Et puis elle se dit, dans un moment où elle déprime puis qu'elle voit là, qu'il faut qu'elle remonte puis qu'elle refasse surface, qu'elle se dit que c'est très pénible d'avoir peur toujours de retomber. Elle dit que ce serait tellement commode, miséricordieux, de disposer d'un bouton on-off qu'on actionnerait. Alors ça, j'ai souvent pensé à ça. Si on pouvait mettre la pile en dehors et bien dormir, arrêter de penser à tout ça. Puis elle confie ses rêves, ses cauchemars, parce qu'elle fait des rêves parfois qui se passent dans son pays d'origine, parfois au Québec. Et puis bon, c'est des moments difficiles qu'elle décrit. Et ce qui fait qu'on aime cette personne-là, c'est sa vulnérabilité, sa sensibilité et finalement la vérité, l'authenticité de son propos. Puis une vraie mère, là, elle est une vraie mère, même si elle se le demande tout le temps. Elle est très proche de son fils. Puis à un moment donné, elle garde dans son vieux téléphone cellulaire un long message où lui explique un jeu vidéo avec beaucoup de passion. Et ça, c'est comme son moteur finalement de voir que cet enfant-là a besoin d'elle. Et que pour lui, elle va faire des sacrifices, puis elle va faire tout ce qu'elle peut pour qu'il soit heureux. Et il y a quand même de l'espoir dans ce texte. Elle cite des passages intéressants qui font en sorte que ça lui donne, elle, l'énergie pour survivre, pour continuer, même s'il y a des passages parfois très tristes et très difficiles, très injustes dans ça. Alors, c'est un très beau livre sur la situation d'une femme qui est seule souvent avec son enfant, qui tente de vivre de son art. Elle, dans son cas, c'est une écrivaine, dans un monde difficile et qui a traversé à travers ça la pandémie, puis tout ce qu'on connaît sur la situation des personnes seules à Montréal, en ville, et qui sont mères en plus. Donc, j'ai beaucoup aimé ce livre-là, qui est très différent de l'autre, mais jusqu'à un certain point, décrit une situation de femme, mais plus âgée. Mm-hmm. Elle est un peu plus vieille que l'autre. Elle a vécu autre chose. C'est une mère. L'autre, c'est vraiment la fin de l'adolescence qu'elle
raconte. Et les deux récits sont composés de fragments. C'est pour cette raison que je parlais de structures semblables. Il y a de l'autofiction aussi.
Oui, c'est vrai. Là-dessus, vous avez raison. Je n'avais pas bien compris. Oui, effectivement, au niveau de la structure, ça se ressemble. Quoique, elle, dans le sien, c'est pas chronologique. L'autre, elle nous décrit vraiment la situation. On voit venir ça, là. Mais là, ici, c'est regroupé. Comme par exemple, ça s'appelle arithmétique parentale. Ça regroupe un paquet de petits fragments sur la vie arithmétique, dans le sens de comment il faut conjuguer quand on est parent dans la vie aujourd'hui avec un enfant. Alors, c'est un très beau livre que je recommande chaudement.
Je mets mes rêves sur la table par Martina Shumova. Merci beaucoup, Anne-Marie. Je vous souhaite du bon temps, de belles lectures et on se retrouve dans 2 semaines.
Parfait, au revoir.